Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fascine.
Qui t'intrigue aussi.
Et qui donne des sueurs froides parfois.
Ouais, on va pas se mentir, des grosses sueurs froides.
On parle d'investissement immobilier, et pas n'importe où puisqu'on pose nos valises virtuelles à Bordeaux, en cette année 2026.
Une année charnière pour la ville.
Complètement. Donc la mission de cette analyse aujourd'hui, c'est de décortiquer une vraie montagne de données en fait. Des rapports spécialisés, des notes de marché, on veut comprendre ce qui s'y passe réellement.
Sans noyer tout le monde sous les statistiques.
Voilà, l'idée c'est surtout pas de faire un catalogue de chiffres arides. On va extraire la substantifique moelle de tout ça pour repérer où se cachent les vraies opportunités dans la métropole girondine aujourd'hui. Et surtout comprendre comment la stratégie a dû radicalement muter cette année.
Bah, c'est le point de départ idéal. Parce que si on prend un peu de hauteur, juste pour observer le panorama global de la ville, les chiffres actuels dressent un portrait qui est très clair.
Bordeaux attire toujours.
Ah mais phénoménalement. Le pouvoir d'attraction reste intact. En 2026, la demande locative y est massive. Quand on scrute l'écosystème local, il y a un chiffre qui saute aux yeux. C'est la métropole qui compte près de...
100 000 étudiants.
C'est ça, exactement. 100 000, c'est un vivier démographique énorme et constant. Et à cela s'ajoute un autre paramètre qui est très structurel. 63% des habitants de la métropole sont des locataires.
Ah ouais, 63, c'est un marché de locataires en fait.
Totalement. Et une telle proportion, ça garantit une rotation et une vraie fluidité sur le marché. Mais bon, le fait le plus marquant de la période récente, c'est l'évolution de la valeur vénale. On a assisté à une véritable correction.
On parle d'une baisse des prix de 5 à 10% par rapport au sommet historique.
Oui, ce sommet presque euphorique qu'on avait atteint en 2022.
Bon, décortiquons un peu tout ça. Une baisse des prix de 5 à 10%, combinée à une demande locative qui reste énorme, avec ces fameux 100 000 étudiants. Ça ressemble à un rééquilibrage plutôt sain. Mais en regardant de plus près les rapports, on voit qu'en février 2026, le rendement locatif brut moyen y s'établit autour de 4%.
Selon les données agrégées par des courtiers comme Meilleur Taux, oui.
Voilà. Et pour être tout à fait franc, 4% de rendement brut en moyenne, dans un contexte où l'inflation a redessiné nos attentes et où les livrets d'épargne se défendent bien, bah, ça paraît pas si incroyable sur le papier. Qu'est-ce qui justifie qu'on s'y intéresse vraiment aujourd'hui ?
Bah, c'est une excellente question. Et c'est précisément là que réside le piège des moyennes, en fait.
C'est-à-dire ?
S'arrêter à ce chiffre brut de 4%, c'est un peu regarder la métropole avec des œillères. Cette moyenne, elle lisse des réalités diamétralement opposées. La vraie clé du succès en 2026, ce qui sépare un investissement patrimonial mou d'une opération extrêmement performante, c'est la microgéographie.
Chaque rue raconte une histoire différente.
Exactement. Et c'est sans compter la maîtrise des nouvelles règles fiscales qui ont, on va le voir, considérablement bougé cette année. Il faut vraiment creuser bien au-delà de cette facette des 4%.
Et c'est pour ça qu'on a déplié la carte de la ville pour cette analyse. On a identifié les véritables pépites géographiques à partir des sources. Commençons par les secteurs en pleine mutation. Les étoiles montantes, si on veut.
Les quartiers qui bougent.
Voilà. Le nom qui revient en boucle dans toutes les analyses, c'est Bacalan et le secteur des bassins à flot. Les chiffres remontés du terrain sont hyper parlants. On observe des prix d'entrée qui restent encore relativement accessibles pour Bordeaux, oscillant entre 3 500 et 4 200 euros le mètre carré.
Et en face, on a un rendement locatif brut qui grimpe.
Oui, entre 5 et 5,5% sur les petites surfaces.
Ce qui nous met déjà nettement au-dessus de cette fameuse moyenne métropolitaine.
C'est clair.
Et si on relie ça à l'histoire urbaine récente de la ville, ce dynamisme, il n'est absolument pas dû au hasard. Ce quartier, au passé industriel, c'est le théâtre d'une transformation qui était planifiée et massive.
Il y a les 5400 logements neufs qui arrivent progressivement.
Voilà. Avec toute l'infrastructure indispensable qui suit, les commerces de bouche, les équipements de proximité, les espaces verts. Et ajouter à ça des locomotives culturelles, comme la Cité du Vin, et bien sûr la desserte hyper fluide par le tramway B.
Ce cocktail urbain crée une attractivité immense pour les jeunes actifs.
C'est un équilibre rare pour un profil investisseur. On a un rendement immédiat très correct, grâce à la demande, couplée à un potentiel de plus-value très net, à moyen terme, au fur et à mesure que le quartier s'embourgeoise en fait.
Dans le même esprit de Paris sur l'avenir, il y a une autre zone qui polarise l'attention dans les rapports. Belsier et Euratlantique. C'est un secteur qu'on pourrait presque rebaptiser le Paris de la grande vitesse.
Un pari qui s'appuie sur des fondamentaux étatiques lourds. Hein. Le quartier de la gare Saint-Jean, il est porté par l'opération d'intérêt national.
La fameuse OIN Euratlantique.
C'est ça. Pour bien mesurer l'échelle, faut imaginer un projet titanesque de 2 millions de mètres carrés qui redessine tout le sud de Bordeaux jusqu'en 2030.
C'est gigantesque.
Et l'effet de la ligne TGV agit comme un catalyseur puissant ici. Mettre le centre de Paris à seulement 2 heures de train, ça a complètement bouleversé la sociologie du quartier. Ça séduit énormément de cadres sup et d'actifs en mobilité entre les deux villes.
Et en conséquence, les prix actuels naviguent entre 3 800 et 4 400 euros le mètre carré, ce qui est considéré par les analystes comme étant encore en dessous de son plafond de verre futur.
C'est un tarif d'entrée stratégique. Sur des appartements de type T2 bien fonctionnels et proches des quais de la gare, on constate des taux d'occupation remarquables.
Ce qui génère un rendement brut entre 4,5 et 5%.
Exactement.
Mais c'est là qu'intervient une notion de choix stratégique très personnel pour ceux qui se lancent. Parce qu'investir dans un quartier en devenir, avec ses chantiers, ses bruits, ses mutations, ça ne correspond pas à tous les profils.
Non, certains privilégient la sécurité de la pierre historique, le centre-ville.
Le marché premium, voilà. Pour aider à visualiser, prenons un exemple très concret tiré des données. Sur le secteur très animé de Saint-Michel ou des Capucins, là-bas, le mètre carré se négocie entre 4 200 et 4 700 euros.
Un marché très prisé.
Oui. Et si on se positionne sur un T2 de 35 mètres carrés, acheté aux alentours de 155 000 euros, on constate qu'il se loue environ 590 euros hors charge.
Ce qui nous amène à un rendement très honnête.
De 4,5 à 5 %. C'est un compromis qui semble idéal pour rester au cœur de la ville.
C'est un compromis redoutable, oui, mais qui exige une vigilance extrême sur un point précis, la qualité du bâti. On est sur de l'ancien, parfois du très ancien.
Faut anticiper les charges de copropriété.
Voilà, et d'éventuels travaux de structure. Et c'est fascinant de mettre ce secteur des Capucins en perspective avec l'hypercentre ultra-historique. Les quartiers vraiment dorés comme Saint-Pierre ou l'Hôtel de Ville.
Là, on change de dimension.
Totalement. Dans ces zones hyper-premium, la rareté fait exploser les prix autour de 5 400 euros le mètre carré. Et mécaniquement, le loyer pouvant pas suivre une telle courbe de manière proportionnelle, bah le rendement chute de façon drastique.
Il s'établit entre 3 et 3,5 %.
Et on observe le même phénomène au Chartron, un autre secteur emblématique où les prix tournent autour de 5 000 euros le mètre carré pour un rendement de 3,5 à 4 %.
Ce qui ramène à notre question du début. Pourquoi diable immobiliser autant de capital pour un rendement de 3 %?
Parce que le rendement brut n'est pas le seul indicateur de performance. Ce qui est fondamental ici, c'est la vacance locative. Dans ces quartiers prisés, elle est proche de zéro. La clientèle est aisée, souvent des locataires de longue durée, des professions libérales, des retraités confortables.
Les impayés sont rarissimes. Hein.
C'est typiquement ce qu'on appelle une stratégie patrimoniale et sécuritaire. Le but, c'est pas de générer un gros surplus de cash flow immédiat tous les mois, c'est de placer son argent dans un actif tangible, liquide, qui va résister aux crises, tout en préservant le capital pour une transmission future.
La géographie dicte vraiment la stratégie, en fait. Et si l'objectif principal est bel et bien de faire tourner le compteur du rendement, il faut apparemment traverser la Garonne, ou s'éloigner un peu des pavés historiques.
La rive droite, par exemple.
Le potentiel de la rive droite est assez frappant dans les rapports. Le quartier de la Bastide affiche toujours une décote impressionnante de 15 à 20% par rapport à la rive gauche.
Avec des prix contenus entre 4 000 et 4 350 euros le mètre carré.
Avec en toit de fond l'immense projet urbain Bastide-Niel qui promet de revaloriser tout le périmètre à moyen terme.
La rive droite a de sérieux atouts de développement, c'est indéniable. Mais si on cherche vraiment le moteur de rentabilité le plus puissant de l'agglomération, l'analyse converge inexorablement vers la première couronne.
Les communes comme Talence-Pessac, Bègles ou Mérignac.
C'est là que le rapport entre le prix d'achat et le loyer perçu devient optimal. Prenez Talence et Pessac. Ces villes vivent au rythme d'un bassin colossal de 60 000 étudiants sur le campus.
C'est une demande de logement structurellement forte.
Renouvelée chaque année et totalement déconnectée des crises économiques classiques.
Et c'est en se penchant sur ce secteur étudiant qu'on découvre une stratégie d'optimisation redoutable, la colocation. En location classique, un investisseur obtient un rendement brut très correct, entre 4,6 et 5,2% pour des tuits d'achat naviguant de 3 800 à 4 100 euros le mètre carré.
Mais l'astuce ?
L'astuce, c'est de se positionner sur une grande surface, un T3 ou un T4, et de le diviser en colocation. Et là, le rendement explose et peut tutoyer les 6 ou 7%. On est sur le haut du panier de la rentabilité bordelaise.
Clairement.
D'autres communes périphériques tirent aussi leur épingle du jeu, comme Bègles, qui offre 4,7% de rendement pour un prix d'entrée très doux autour de 3 500 € le mètre carré. Ou encore Mérignac, très dynamique sur le plan de l'emploi, qui affiche un rendement moyen de 4,8%.
Tous ces pourcentages sont hyper séduisants. C'est le côté gratifiant de la recherche immobilière. Mais ça nous amène à un point de bascule absolument crucial de notre analyse.
Ah, la réalité qui rattrape.
Exactement. Générer du rendement brut, c'est une chose. Mais ce qui finit réellement sur le compte en banque dépend d'un filtre impitoyable, la fiscalité.
Et en 2026, le paysage fiscal français a subi des secousses sismiques.
On peut le dire.
Là, ça devient vraiment fascinant. La fiscalité. C'est souvent le moment où la tension baisse un peu, où le sujet paraît aride, mais c'est littéralement le cœur du réacteur financier. Et tout particulièrement un dispositif bien précis, le fameux statut LMNP, le loueur meublé non professionnel.
Le chouchou des investisseurs.
Jusqu'à récemment, c'était la poule aux œufs d'or absolue. Mais à la lecture des évolutions de 2026, on comprend que les règles du jeu ont subi un sérieux tour de vis.
Le terme est approprié. Les évolutions réglementaires sont sévères et elles s'articulent autour de trois chocs majeurs, en fait. Premièrement, la fiscalité courante s'alourdit avec la hausse des prélèvements sociaux sur les revenus des LMNP. Ils sont passés de 17,2 à 18,6%.
Aïe, une ponction directe qui ampute la rentabilité nette dès les revenus de 2025.
C'est ça. Et deuxièmement, et c'est vraiment le bouleversement le plus profond, la réintégration des amortissements. C'est une mesure qui frappe les cessions réalisées depuis février 2025.
Attendez, mettons ça en clair parce que c'est vraiment le point de bascule. Historiquement, l'amortissement, c'est cette mécanique comptable un peu géniale qui permettait d'effacer ses impôts pendant des années en déclarant que les murs, la toiture, les meubles perdaient de leur valeur au fil du temps. On créait un déficit fictif. Et maintenant, que se passe-t-il au moment où on décide de revendre l'appartement? L'État vient réclamer l'addition?
Exactement ça. Pour faire simple, avec une analogie, c'est un peu comme si l'administration fiscale disait « Bon, pendant 10 ans, vous m'avez dit que votre appartement perdait de la valeur comptable et je vous ai fait un cadeau fiscal en échange. Mais aujourd'hui, vous le revendez plus cher que vous l'avez acheté. »
Donc, concrètement?
Concrètement, si vous avez acheté un bien à 200 000 euros et que vous avez déduit 50 000 euros d'amortissement au fil des ans, l'État considère aujourd'hui, pour le calcul de votre impôt sur la plus-value, que vous avez acheté ce bien 150 000 euros.
La différence sur laquelle on est taxé à la sortie est donc artificiellement gonflée.
Voilà. C'est ce qu'on appelle une fiscalité de sortie très lourde qui vient rogner la rentabilité globale de l'opération.
C'est d'une vraie douche froide pour ceux qui pensaient faire un aller-retour rapide. Et il y avait un troisième point sur cette réforme fiscale.
Oui. Le législateur a décidé de taper fort sur la location touristique non classée de type Airbnb qui assèche les centres-villes.
Le plafond de revenus pour bénéficier du régime simplifié a été drastiquement abaissé, à seulement 15 000 euros par an.
Et l'abattement forfaitaire est tombé à 30%.
Une véritable sanction.
Une vraie sanction. Mais en revanche, et c'est là que la nuance vitale, la location meublée de longue durée a été préservée. Elle conserve ses avantages en micro-BIC avec un plafond maintenu à 77 700 euros et un abattement confortable de 50%.
Alors, face à ce tableau, la question mérite d'être posée frontalement. Est-ce que ça signe la mort clinique du statut LMNP? Un investisseur en 2026 doit-il fuir ce dispositif qui semblait magique il y a encore quelques mois?
C'est une réaction épidermique courante sur le marché actuel de vouloir fuir. Mais elle est précipitée. Non. Le LMNP n'est pas mort. Ce que démontrent les analyses financières poussées, c'est que le LMNP recentré sur la location longue durée reste un outil d'une puissance redoutable.
Même avec cette taxe à la revente?
Même avec la nouvelle donne à la revente. Le régime réel permet toujours de déduire ses charges réelles, les intérêts de son emprunt bancaire, et de pratiquer cet amortissement annuel. Résultat des courses, il est toujours possible d'encaisser des loyers et de réduire son imposition sur ses revenus à zéro pendant 10 ou 15 ans.
Ce qui reste un avantage massif.
Étudiant, les comparatifs montrent qu'un T2 meublé avec goût dans des quartiers comme Nansouty ou Saint-Michel se loue systématiquement 10 à 15% plus cher que la même surface louée nue. La prime économique à l'exploitation est donc bel et bien là.
Bon, c'est plutôt rassurant de voir que le modèle économique tient la route. Hein. Mais il y a un autre monstre caché sous le lit des investisseurs immobiliers aujourd'hui. Un acronyme de 3 lettres qui terrorise tout le monde depuis quelques années.
Le fameux DPE.
Le diagnostic de performance énergétique, les règles environnementales sont devenues impitoyables. Depuis le 1er janvier 2025, il est strictement interdit de mettre en location un logement classé G. C'est hors la loi. Et le coup prêt pour les logements classés F est déjà programmé et validé pour 2028.
C'est devenu le critère d'achat numéro 1.
Logique. Ça a généré des ventes de panique de la part de propriétaires incapables de financer des rénovations lourdes. Sauf que, en épluchant ces données de 2026, il y a un véritable instant eureka dans les rapports. Un secret de polichinelle qui change absolument tout concernant ce DPE.
C'est sans doute l'aspect le plus fascinant de cette année immobilière. Ça montre comment une simple modification technique dans un bureau ministériel peut sauver ou couler un marché entier. Ce qui s'est passé, c'est qu'un nouveau mode de calcul officiel du DPE est entré en vigueur. La modification centrale, ultra technique en apparence, elle porte sur le coefficient de conversion de l'électricité en énergie primaire.
Et ce petit multiplicateur est passé de 2,3 à 1,9.
C'est ça.
Attendez, je veux être sûr de bien comprendre l'impact de ce simple changement de décimal sur le terrain. Il est digne d'un tour de magie. Ce que ça signifie concrètement, c'est que près de 850 000 logements chauffés à l'électricité à travers la France viennent d'être extraits instantanément du statut infamant de passoire thermique.
Sans qu'un seul propriétaire n'ait eu besoin de donner un coup de pinceau, oui.
Pas besoin de changer une fenêtre ou de poser un seul centimètre d'isolant. Si on reprend notre exemple bordelais, dans un quartier historique comme Saint-Michel ou les Capucins, on trouve énormément de petits appartements anciens dans des immeubles en pierre. Souvent équipé de simples radiateurs électriques, parce qu'il était impossible d'y installer des pompes à chaleur ou du gaz.
Et pour ces biens-là, c'est une révolution.
Un appartement classé F en décembre, qui était condamné à sortir du marché locatif, a pu se réveiller classé E en janvier. Il redevient parfaitement légal et louable. C'est une opportunité financière inouïe pour ceux qui savent lire et anticiper ces grilles techniques.
Ce retournement de situation souligne à quel point la veille réglementaire est devenue l'arme numéro 1. Un bien fortement négocié à la baisse par un acheteur sous prétexte d'un mauvais DPE peut soudainement retrouver sa pleine valeur locative grâce à une mise à jour d'un logiciel de diagnostic.
C'est fou quand on y pense.
Mais l'équation de l'investisseur en 2026 ne s'arrête pas là. Il faut aussi intégrer le coût de l'argent. Les relevés de février montrent une certaine stabilisation du crédit. On observe une moyenne de 3,27% sur les prêts à 20 ans.
Et les banques sont prêtes à faire des efforts pour les meilleurs profils?
Descendant jusqu'à 3,05%, oui. La région Nouvelle-Aquitaine bénéficie d'ailleurs de conditions parmi les plus favorables du territoire. Mais attention, face à cette détente relative du crédit, il y a une autre contrainte administrative majeure qui agit comme un plafond de verre.
L'encadrement des loyers.
Oui.
Une vraie usine à gaz, cet encadrement. Il est actif à Bordeaux depuis le 15 juillet 2025. Concrètement, la période où on pouvait fixer son loyer au doigt mouillé en se basant uniquement sur la tension de la demande, c'est révolu. Désormais, les loyers sont plafonnés mathématiquement selon des secteurs géographiques très précis, l'année de construction de l'immeuble et le fait que le bien soit vide ou meublé.
C'est devenu très paramétré.
Si on récapitule, on a des taux de crédit qui fluctuent. Une fiscalité LMNP qui se transforme en casse-tête à la revente, un DPE qui dépend d'une formule mathématique révisable et des loyers verrouillés par décret. Ça commence à faire beaucoup d'assiettes à faire tourner en même temps pour un particulier.
Ça met en lumière une réalité incontournable du marché d'aujourd'hui. L'amateurisme n'a plus sa place. Face à une telle densité technique, fiscale et légale, improviser un investissement sur un coup de cœur est le meilleur moyen d'aller dans le mur.
Il faut s'entourer.
C'est la raison pour laquelle toutes les analyses insistent sur la nécessité vitale de se faire accompagner par des professionnels. Le recours à un courtier spécialisé ou un conseiller en gestion de patrimoine, c'est devenu la norme. Des structures dédiées, comme Aura Finance par exemple dans la région, elles ne se contentent plus de chercher un taux.
Elles modélisent l'opération entière.
Exactement. Elles évaluent la capacité d'emprunt réel face aux exigences bancaires actuelles, qui réclament souvent un apport de 10 à 15% pour rassurer les comités de risque. Et surtout, ces experts sont capables de structurer le montage fiscal le plus résilient possible, celui qui absorbera les chocs du nouveau LMNP et les contraintes de l'encadrement des loyers.
Eh bien, le moment est venu de rassembler toutes les pièces de ce puzzle bordelais. Ce qui ressort avec une clarté limpide de cette exploration, c'est qu'investir à Bordeaux en 2026 exige d'être un fin stratège. L'époque bénie où il suffisait d'acheter n'importe quel appartement dans n'importe quelle rue et d'attendre passivement que la hausse générale du marché fasse le travail, cette époque est définitivement enterrée.
Elle est révolue, oui.
Aujourd'hui, la rentabilité se débusque au scalpel. On va privilégier la périphérie et la première couronne, comme Talence ou Pessac, si l'objectif est d'extraire un rendement pur et puissant grâce au vivier étudiant. On va se positionner sur la rive droite ou sur le secteur de Bacalan, si on cherche un point d'équilibre offrant un fort potentiel de développement urbain.
Et surtout, on ne se lance plus sans savoir simuler au millimètre près l'impact fiscal global de l'opération.
De l'achat jusqu'au jour de la revente.
C'est un résumé implacable de la situation. S'il fallait ne retenir qu'une leçon de toutes ces données, c'est que la compréhension et la maîtrise du cadre réglementaire sont devenus des facteurs de valorisation tout aussi déterminants que l'emplacement physique du bien.
L'emplacement ne fait plus tout.
Le sauvetage inespéré de milliers de logements grâce à la baisse du coefficient du DPE ou encore les limites de rentabilité imposées par l'encadrement des loyers en sont les preuves éclatantes. La valeur d'un actif immobilier ne se résume plus à de la belle pierre de taille et un balcon filant. Elle réside dans la capacité de l'investisseur à naviguer et optimiser cet environnement légal complexe.
Ce qui nous conduit tout droit vers une réflexion finale presque philosophique, inspirée par l'élément sans doute le plus déconcertant de notre analyse du jour. On vient de démontrer qu'un simple changement de coefficient mathématique sur une obscure grille d'évaluation énergétique, ce fameux passage de 2,3 à 1,9, a eu le pouvoir inouï de transformer un appartement jugé invendable et indésirable en une machine à cash parfaitement légale, du jour au lendemain, sans aucune modification physique.
C'est vrai que c'est vertigineux.
Et ça pousse inévitablement à se poser cette question. Quels autres leviers réglementaires, quelles autres petites subtilités administratives invisibles dorment actuellement au fond des textes de loi, de l'urbanisme ou de la fiscalité, n'attendant que l'œil aiguisé d'un investisseur averti pour révéler une immense valeur cachée? La nature même de la valeur immobilière a muté. Elle n'est plus seulement faite de briques, de ciment et d'une adresse de prestige. Elle est désormais tissée d'alinéas, de décrets, de calculs politiques. Voilà de quoi méditer pour la suite. À très vite pour une nouvelle plongée au cœur de l'information.